21. Ses constructions, ses projets. Il acheva les ouvrages que Tibère avait laissés imparfaits, le temple d'Auguste et le théâtre de Pompée. Il commença un aqueduc près de Tibur et un amphithéâtre attenant au champ de Mars. Son successeur, Claude, finit le premier de ses édifices et abandonna l'autre. Il rétablit les murs de Syracuse et les temples des dieux tombés en ruine. Il voulut aussi reconstruire le palais de Polycrate à Samos, achever à Milet le temple d'Apollon d'Idiméa et bâtir une ville au sommet des Alpes. Mais avant tout, percer l'isthme de Corinthe. Et déjà, il avait envoyé un centurion primipilaire pour prendre les dimensions nécessaires. 22. Son orgueil, il se fait Dieu. J'ai parlé jusqu'ici d'un prince. Je vais parler d'un monstre. Chargé d'une foule de surnoms tels que le pieux, l'enfant des armées, le père des soldats, le très bon, le très grand, après un souper qu'il avait donné à des rois venus à Rome pour lui rendre leur devoir, il les entendit se disputer entre eux sur la noblesse de leur origine et se cria « N'ayons qu'un roi, qu'un chef, auquel tout soit soumis !» Et il s'en fallut de peu qu'il ne prit aussitôt le diadème et ne convertit l'appareil du souverain pouvoir en un signe de la royauté. Mais comme on l'avertit qu'il avait surpassé la grandeur des princes et des rois, il commença à s'attribuer la majesté divine. Il fit venir de Grèce les statues des dieux les plus célèbres par leur perfection et par le respect des peuples, entre autres celle de Jupiter olympien. Il leur ôta la tête et mit à la place celle de ses statues. Il prolongea jusqu'au forum une aile de son palais et transforma en vestibule le temple de Castor et Pollux. Souvent, il venait se placer entre ses deux frères et s'offrait aux adorations de ceux qui entraient. Quelques-uns le saluèrent du nom de Jupiter Lacial. Il institua pour sa divinité un temple spécial, des prêtres et les victimes les plus recherchées. Il y avait dans ce temple une statue d'or, faite d'après nature, que chaque jour on habillait comme lui. Les plus riches briguaient avidement ce sacerdoce. Ils enchérissaient à l'envi les uns sur les autres. Les victimes étaient des flamands, des paons, des tétras, des poules d'Afrique, des pintades et des faisans, qu'on sacrifiait chaque jour, selon le rang établi entre les espèces. La nuit, Caligula invitait la lune, lorsqu'elle brillait de son plein, à venir l'embrasser et à partager sa couche. Le jour, il s'entretenait secrètement avec Jupiter Capitolin, tantôt lui parlant à l'oreille, ou feignant d'écouter ses réponses, tantôt élevant la voix et se brouillant avec lui. Car on l'entendit un jour le braver en ces termes. « Ou tu m'enlèveras, ou je t'enlèverai !» Enfin, selon son expression, il se laissa fléchir, et invité par Jupiter à venir loger chez lui, il établit un pont par-dessus le temple d'Auguste, du mont Palatin jusqu'au Capitole. Bientôt, pour être encore plus voisin, il fit jeter les fondements d'un nouveau palais sur la place même du Capitole. 23. Ses attentats contre sa famille. Il ne voulait pas qu'on crût, ni qu'on dît, qu'il était petit-fils d'Agrippa, à cause de la bassesse de son origine, et il se fâchait lorsque, en prose ou en vers, on le rangeait parmi les aïeux de César. Il disait hautement que sa mère était née d'un inceste d'Auguste avec sa fille Julie, et non content de calomnier ainsi la mémoire d'Auguste, il défendit que l'on célébrât par des fêtes solennelles les victoires d'Actium et de Sicile, qu'il nommait des journées déplorables et funestes au peuple romain. Il appelait quelquefois Augusta Livia, sa bise à l'œil, un Ulysse en jupon. Dans une lettre au Sénat, il osa lui reprocher la bassesse de sa naissance, sous prétexte que son aïeul maternel n'était qu'un décurion de Fondi. Cependant, les actes publics font foi qu'Ophidius Lurco avait exercé des magistratures à Rome. Il refusa un entretien particulier à son aïeul Antonia, à moins que Macron, chef de sa garde, ne fût présent. Les dégoûts et les indignités dont il l'accabla furent cause de sa mort, si toutefois il ne l'empoisonna pas, comme quelques-uns le pensent. Il ne lui rendit aucun honneur funèbre, et de sa salle à manger, il regarda les flammes de son bûcher. Il envoya un tribun des soldats tuer à l'improviste son frère Tibère, et obligea son beau-père Silanus à se couper la gorge avec un rasoir. alléguant pour prétexte de ces deux meurtres que son frère, dans l'espoir de s'emparer de Rome, s'il périssait dans une tempête, avait refusé de le suivre sur mer par un temps d'orage, et que Silanus avait respiré un antidote pour se garantir du poison qu'il pouvait lui donner. Cependant, Silanus n'avait voulu qu'éviter le mal de mer et l'incommodité de la navigation, et Tibère n'avait recouru aux médicaments que pour combattre une toux opiniâtre dont il était tourmenté. Quant à Claude, son oncle, il ne l'épargna que pour en faire son jouet. 24. Son commerce criminel avec ses sœurs. Il entretint un commerce criminel avec toutes ses sœurs. À table, il les faisait placer tour à tour au-dessous de lui, tandis que sa femme était au-dessus. On croit qu'il abusa de Drusilla lorsqu'il portait encore la robe prétexte. On prétend même qu'il fut surpris avec elle par son aïeule Antonia, chez laquelle on les élevait tous deux. Bientôt, il l'enleva à Lucius Cassius Longinus, personnage consulaire à qui elle était mariée, et la traita publiquement comme son épouse légitime. Dans une maladie, il l'institua héritière de ses biens et de l'Empire, et lorsqu'elle mourut, il ordonna une suspension générale de toutes les affaires. Pendant ce temps, ce fut un crime capital que d'avoir ri, d'avoir été au bain, ou d'avoir mangé avec ses parents, sa femme ou ses enfants. Ne pouvant résister à sa douleur, il s'échappa la nuit de Rome, traversa la Campanie et se rendit à Syracuse, et en revint brusquement, laissant croître sa barbe et ses cheveux. Dans la suite, il ne jura jamais que par le nom de Drusilla, même dans les affaires les plus importantes, et en parlant au peuple et aux soldats. Il n'eut pour ses autres sœurs ni un amour aussi vif, ni de pareils égards. Il les prostitua souvent à ses compagnons de débauche. Aussi n'eut-il aucune peine à les condamner à l'exil comme complice de la conjuration de Lépidus et comme adultère. Non seulement il publia leurs lettres autographes, qu'il avait surprises par fraude ou par corruption, mais il consacra à Mars Vengeur 3 épées, qu'il disait avoir été préparées contre lui, et y joignit une inscription. 25. Ses adultères. Il serait difficile à dire s'il fut plus impudent à contracter ses mariages qu'à les maintenir ou à les dissoudre. Caius Pison venait d'épouser Livia Orestilla. L'empereur, qui avait assisté à la noce, fit conduire l'épouse chez lui, la répudia peu de jours après et 2 ans plus tard l'exila, parce que dans cet intervalle, elle paraissait avoir renoué sa liaison avec son premier mari. D'autres prétendent qu'étant invité au repas nuptial, l'empereur dit à Pison, assis à côté d'Orestilla, « Ne serait pas ma femme de si près ?» que sur le champ, il l'emmena hors du festin et que le lendemain, il publia qu'il avait rencontré un mariage à la manière de Romulus et d'Auguste. Ayant entendu dire que l'aïeule de Lollia Paulina, femme de Caius Memnius, personnage consulaire qui commandait les armées, avait été fort belle, il fit aussitôt venir Lollia de sa province, l'enleva son mari, l'épousa et la renvoya bientôt en lui interdisant désormais tout commerce avec un homme. Il aima avec plus de constance et de passion Césonia, dépourvue sans doute de beauté et de jeunesse, et mère de 3 filles, mais femme de la plus impudente lubricité. Il la fit voir souvent à ses soldats, revêtue d'une chlamide, avec un casque et un bouclier, et montant un cheval à côté de lui. Il l'en montra nue à ses amis. Quand elle eut mis au monde une fille, il l'honora du nom de son épouse, et le même jour se reconnut son mari et le père de l'enfant. Il la nomma Julia Drusilla, la promena dans les temples de toutes les déesses et la déposa sur les genoux de Minerve qu'il chargea du soin de la nourrir et de l'élever. Il ne croyait pas qu'il eût plus sûr indice de sa paternité que la cruauté de sa fille, cruauté déjà poussée à tel point que de ses doigts elle attaqua avec fureur le visage et les yeux des enfants qui jouaient avec elle. 26. Ses meurtres, son mépris pour tous les ordres de l'État. Après ces détails, il est presque indifférent de raconter comment il traita ses proches et ses amis. Ptolémée, par exemple, fils du roi Juba et cousin de Caligula, car il était petit-fils de Marc-Antoine, étant né de sa fille Sélénée, et Macron, et cette même Ménia qu'il élevèrent à l'Empire, tous, pour prix de leur parenté ou de leur service, périrent d'une mort sanglante. Il ne fut pas plus respectueux ni plus humain envers le Sénat. Il souffrait que des personnages qui avaient été honorés des plus hautes dignités vinssent en toge au devant de son char, l'espace de plusieurs milliers de pas, et que, ceint d'une serviette, il se tinsse debout pendant son repas, soit derrière son siège, soit à ses pieds. Il se défit de quelques-uns secrètement et ne laissa pas de les appeler, comme si j'eusse vécu encore, et peu de jours après, il leur imputa une mort volontaire. Il destitua les consuls pour avoir oublié d'annoncer par un édit l'anniversaire de sa naissance, et l'Empire resta pendant 3 jours sans autorité souveraine. Il fit battre de verges son questeur, qui avait été nommé dans une conjuration, et jeta ses vêtements dont on l'avait dépouillé sous les pieds des soldats pour que leurs coups fussent plus assurés. Il traita avec la même hauteur et la même violence les autres ordres de l'État, importunés par le bruit de ceux qui, dès le milieu de la nuit, se hâtaient de s'emparer au cirque des places gratuites. Il les fit chasser à coups de bâton. Plus de 20 chevaliers romains, autant de matrones et une foule d'autres personnes furent écrasés dans cette bagarre. Il se plaisait à exciter des querelles entre le peuple et les chevaliers. Il faisait commencer les distributions scéniques avant l'heure ordinaire, afin que les bancs des chevaliers fussent occupés par les gens de la plus basse condition. Au milieu d'un spectacle de gladiateurs, il ordonnait tout à coup qu'on retirât les toiles qui garantissaient l'assemblée des ardeurs du soleil et défendait que personne ne sortît. Au lieu des combats ordinaires, il faisait entrer dans le cirque des bêtes épuisées, les gladiateurs les plus vieux et les plus abjects, et même des gladiateurs de rebut, ainsi que des pères de famille connus, mais affligés de quelque infirmité. Quelquefois, il faisait fermer les greniers publics et annonçait au peuple une famine. 27, ses cruautés. Voici les traits les plus marqués de sa barbarie. Comme on achetait fort cher les animaux qui servaient de nourriture aux bêtes destinées au spectacle, il leur fit livrer les criminels. À cet effet, il visita lui-même les prisons, et sans examiner la cause de la détention de chacun des prisonniers, il se tint sous le portique et condamna aux bêtes tous ceux qui y étaient renfermés. Un citoyen avait promis de combattre dans l'arène pour les jours de César. L'empereur exigea l'accomplissement de son vœu. Il assista au combat et ne le renvoya que lorsqu'il fut vainqueur, après beaucoup de supplications. Il livra aux enfants un autre homme qui avait juré de mourir pour la même cause et qui hésitait à remplir son engagement. On le couronna de rameaux sacrés, on le ceignit de bandelettes, et les enfants, lui rappelant son vœu, le promenèrent de quartier en quartier jusqu'à ce qu'il fût précipité du haut des remparts. Il condamna aux mines et aux travaux des chemins et aux bêtes une foule de citoyens distingués après les avoir flétris d'un fer brûlant. Il y en eut qui l'enferma dans des cages où ils étaient obligés de se tenir à quatre pattes. Il en fit scier d'autres par le milieu du corps. Pourtant, ce n'était pas pour des motifs graves. Les uns avaient été mécontents d'un de ses spectacles. Les autres n'avaient jamais juré par son génie. Il força les pères à assister au supplice de leurs enfants. L'un d'eux s'excusant sur sa santé, il lui envoya sa litière. Un autre venait d'assister à un supplice pareil. Immédiatement après, Caius l'invita à un festin où il déploya toutes sortes de politesses pour l'exciter à rire et à plaisanter. Il fit battre avec des chaînes pendant plusieurs jours de suite l'intendant de ses spectacles et de ses chasses et n'ordonna sa mort que lorsqu'il se sentit incommodé de l'odeur de sa cervelle en putréfaction. Il condamna à être brûlé, au milieu de l'amphithéâtre, l'auteur d'une atellane, à cause d'un vers qui renfermait une plaisanterie à double sens. Un chevalier romain exposé aux bêtes, s'étant écrié qu'il était innocent, sur l'ordre de César, on l'emmena, on lui coupa la langue, et on le ramena au supplice. 28. Ses cruautés. Il demanda à un citoyen, rappelé d'un long exil, ce qu'il avait coutume d'y faire. Celui-ci répondit pour le flatter. « J'ai toujours demandé au lieu de faire périr Tibère et de te donner l'Empire. Mon vœu était accompli. » Alors persuadé que tous ceux qui l'avaient exilé lui souhaitaient la mort, il l'envoya dans les îles des soldats pour les égorger tous. Voulant faire mettre en pièces un sénateur, il aposta des sicaires pour le traiter d'ennemi public au moment où il entrerait dans le Sénat, le percer de coups et le donner à déchirer à la populace. Il ne fut satisfait que lorsqu'il vit entasser devant lui ses membres et ses entrailles, qu'on avait traînés dans tous les quartiers de la ville. 29. Ses cruautés. L'atrocité de ses paroles rendait encore plus exécrable la cruauté de ses actions. Il ne trouvait dans son caractère rien de plus beau et de plus louable que ce qu'il appelait son inflexibilité. Son aïeul Antonia lui faisait quelques remontrances, non content de n'y avoir aucun égard. « Souvenez-vous, lui dit-il, que tout m'est permis, et envers tous !» Il allait donner l'ordre de massacrer son frère, qu'il soupçonnait de s'être muni de contrepoison. « Quoi ? » dit-il, « un antidote contre César ?» Lorsqu'il exila ses sœurs, il leur dit avec menace qu'il avait non seulement des îles, mais des glaives. Un ancien prêteur, qui s'était retiré à Antissyre pour sa santé, lui demandait souvent la permission d'y faire un plus long séjour. Il envoya l'ordre de le tuer, disant qu'il lui fallait une saignée, puisque depuis si longtemps, les lébores ne lui servaient de rien. Tous les jours, il faisait la liste des prisonniers qu'on devait exécuter. Et il appelait cela « apurer ses comptes ». Un jour qu'il avait condamné en même temps des Grecs et des Gaulois, il se vantait d'avoir subjugué la Gallo-Grèce. 30. Ses cruautés. Il ne faisait guère périr ses victimes qu'à petits coups réitérés. Et l'on connaît de lui ce mot qu'il répétait souvent. « Fais en sorte qu'il se sente mourir ». Une méprise de nom ayant fait punir un autre homme que celui qu'il destinait au supplice. « Celui-ci, dit-il, l'a autant mérité que l'autre. » Il avait fréquemment à la bouche ce mot d'une tragédie, « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Il s'emportait souvent contre tous les sénateurs, les appelait créatures de ses gens ou dénonciateurs de sa mère et de ses frères. Et, produisant les pièces qu'il avait faim de brûler, il justifiait la cruauté de Tibère autorisée par tant d'accusations. Il ne cessait d'attaquer l'ordre des chevaliers comme idolâtre, de jeu et de spectacle, irrité de voir le peuple d'un avis contraire au sien dans une représentation théâtrale, il s'écria « Ah ! Plutôt Dieu que le peuple romain n'eût qu'une tête !» On accusait devant lui un voleur nommé Tétrinius. Il dit que ceux qui demandaient la condamnation étaient eux-mêmes des Tétrinius. 5 des champions antioniques que l'on nomme Ressières et qui combattent en troupes ayant succombé sans résistance aux impareils nombres de gladiateurs, on avait prononcé leur arrêt de mort. Mais l'un d'eux, reprenant sa fourche, tua tous les vainqueurs. Ce massacre lui parut affreux. Il le déplora dans un édit et chargea d'imprécations ceux qui avaient soutenu ce spectacle.